bon pour la santé.
Catherine Bourdereau au microphone.
Et Benoît Hassett. Alors, pour l'instant, on débute cette émission. On est en présence de Pierre Craig.
Bonjour.
Bonjour, Pierre Craig.
Docteur Varuel.
Bien sûr.
Oui, c'est vrai. Bonjour.
Ben, il faut se présenter quand on est à table, quand même.
Il y a sa padjette, hein, si on est malade.
Voilà. Avant de vous laisser avec Catherine Bourdereau, qui va un peu nous faire comprendre toute cette vie et ses détours, je veux seulement rappeler que l'émission a été basée sur vos préoccupations santé. Tout au long de celle-ci, des chroniqueurs, des chroniqueuses viendront parler de nutrition, ça sera avec Claudine Larivière, de santé générale avec notre bon docteur Baruel, d'éducation physique aussi avec un nouveau à l'émission, Manuel, oui d'accord, et bien sûr, on parlera avec d'autres chroniques de droit et de livres. Voilà.
Nous sommes avec Pierre Craig, rien de moins.
Ben quand même, rien de moins.
40 ans de métier, longue feuille de route.
Et on ne rajeunit pas.
Et vous savez, lorsqu'on parle de vous, Pierre Craig, vous faites un coming out. Vous avez déjà fait un coming out, mais quand on dit à notre entourage que vous souffrez d'anxiété, personne ne nous croit parce que vous êtes un bon gaillard, vous avez défendu la veuve et l'orphelin, vous allez au fond, vous avez la justice en vous, mais vous souffrez d'anxiété, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui cloche.
Jacques Brel, paraît-il, vomissait avant d'entrer en scène. Normand Brathwaite n'anime plus de gala parce qu'il n'était pas capable d'y faire face. C'est des gens comme ça, c'est des gens dont on pourrait se dire « Wow, ils sont solides ». Je pourrais peut-être vous péter une petite crise de panique ici, maintenant, là, ça se pourrait.
Il reste une heure et demie.
Oh, oui, mais j'ai un docteur à côté de moi, je me sens
on
bien.
Prêt, non, non,
mais
vous
savez, le stress, l'anxiété, la panique, ça se passe en dedans. Et je pense que le message important, c'est de dire que dans la majorité des cas, et je souligne majorité des cas, parce qu'il ne faut pas faire une règle absolue, pour faire en sorte que certaines personnes se sentent mal, bien, dans la majorité des cas, ça n'empêche pas de vivre. On peut vivre avec ça.
Pourtant, il y a 1 700 000 personnes qui souffrent de troubles anxieux, 280 000 personnes qui souffrent de troubles de panique. C'est pas drôle, avoir un trouble de panique, c'est comme faire une crise cardiaque. Je suis pas sûr qu'on peut vivre avec ça, non?
Bien, la crise cardiaque, on peut vivre avec ça, j'en suis la preuve vivante. J'en ai fait une, puis une très, très bonne. Même que les médecins, Dr Baruel, ça vous dira peut-être quelque chose, m'ont dit, ben après, là, pas sur le coup, après, il y a un des cardiologues, parce que quand vous faites une crise cardiaque, quand le système de santé vous prend en main, c'est le cas de le dire, il y a un médecin, plusieurs semaines après, qui m'a dit, voulez-vous savoir le nom de la crise cardiaque, de l'infarctus que vous avez fait? Parce qu'il porte un nom. J'ai dit, OK, The Widowmaker.
Okay.
Le faiseur de veuves. Bon, mais j'ai bien ri parce que j'ai pas fait de veuve. Mais non, vive avec l'anxiété. Ben, écoutez, là, vive avec l'anxiété.
Est-ce qu'on est plus humble?
Je me pose la question, oui.
Pourquoi?
Parce que vous n'avez pas eu moyen d'être arrogant. c'est pas compliqué, là. Quand vous vivez ça... Ben, moi, j'ai fait une conférence avec des étudiants de cégep il y a quelques jours. Et bon, je leur ai raconté ma vie. Dans le fond, ce que je leur dis, c'est oui, j'ai été anxieux, puis je leur raconte les étapes de ma vie, la première fois que je suis allé au micro, quand j'anime des congrès ou des choses comme ça, où j'ai à parler devant plusieurs centaines de personnes, c'était le cas ce jour-là. Ben, avec eux, j'étais pas anxieux. C'est pas pareil, là, remarquez, là, c'est pas animer un congrès sur une matière précise avec toute la responsabilité. Là, je racontais ma vie, donc c'était beaucoup plus simple. Mais je leur expliquais toutes les étapes. Mais ce que je leur ai dit à la fin, je leur ai dit, ça fait pas juste enlever des choses, ça donne quelque chose, ça donne beaucoup d'humanité. Ça donne beaucoup de solidarité. Ça donne beaucoup de proximité avec les autres humains.
Je vous le concède, Pierre, mais lorsqu'on souffre, il y a encore beaucoup de préjugés lorsqu'on souffre de troubles anxieux. Il me semble que si on cherche un travail, c'est pas quelque chose qu'on met de l'avant.
Ben non, vous allez pas chantonner à tout le monde. Engagez-moi, je suis un être anxieux, je fais des crises de panique et je stresse et tout ça.
Ben oui, mais pourtant, si c'est...
Non, mais si c'est ça, cas, ça fait partie de la vie. Non, je pense que... Vous savez, trouvez-moi un humain qui porte pas une petite croix. Trouvez-moi un humain qui ne porte aucune croix, qui n'a rien à porter comme fardeau léger, moyen ou lourd. On porte tous quelque chose.
Pierre,
moi, c'est ça.
Parlons des vraies affaires.
Oui.
un trouble panique, souvent, ils se rendent à l'hôpital puis ils pensent qu'ils font des crises cardiaques. Fait que c'est quand même pas...
Moi, j'en ai fait une pour de vrai. Non,
non, vous avez déjà fait des troubles paniques, vous aussi. Donc, c'est comme la vie s'arrête. La vie s'arrête quand on fait une crise de panique. Donc, comment ça gère et comment on l'avoue? Là, vous avez fait un coming out. Qu'est-ce que vous diriez aux autres qui souffrent de ce mal intérieur et qui n'est pas capable d'en parler parce qu'il y a beaucoup de préjugés? Qu'est-ce que vous leur diriez?
Y a-t-il beaucoup de préjugés?
Oui.
Non, je ne suis pas sûr de ça.
Mais vous en parlez parce que vous êtes connu. Vous êtes connu, Pierre.
C'est vrai. Oui,
mettez-vous,
oui.
C'est sûr que vous êtes connu, c'est plus facile pour vous d'en parler.
Bien, je vais vous dire, quand j'ai fait l'entrevue avec André Robitaille, l'entrée principale, j'ai terminé l'entrevue, on est sorti des ondes, il y avait un commercial, et là, toute l'équipe technique a applaudi. Ils n'ont pas ri de moi, ils ont applaudi. Mm-hmm. Bon, c'est sûr que c'est Pierre Craig, ils me connaissent, je suis un collègue, ma maman, tout ça, là. Mais il y a quand même quelque chose là. L'entrevue que j'ai faite a été revue plus de 170 000 fois. Et j'ai été vérifié, c'est ma blonde qui me dit ça, parce que ma blonde aime bien ça, tenir ces chiffres-là, elle m'aime beaucoup. Mais je suis allé vérifier, et écoutez, les entrevues de ce type, les plus regardées, dépassent rarement 50 000. La mienne, mais c'est pas parce que c'est Pierre Craig, là.
Oui.
Non, pas du tout. Non, je n'y crois pas. C'est l'histoire. L'histoire est allée chercher les gens. Le fait que quelqu'un parle de son anxiété, puis que ça s'adonne que ce soit une personne qui a vécu une vie publique, très publique, devant les micros et les caméras, et etc., ben, je pense que ça a beaucoup impressionné les gens, puis ils voulaient entendre l'histoire. Écoutez, j'ai reçu des téléphones aussi, là. J'ai reçu des téléphones de collègues qui m'ont dit « moi aussi ». De gens connus, là, je ne les nommerai pas, mais des gens qui ont fait des crises de panique, comme s'évanouir dans une voiture parce que tu as une émission animée, puis être obligé de lâcher dans le fond. Alors, c'est quand même... Mais c'est pas... Si je pouvais peser sur un piton, là, parce que quand vous m'avez posé la question, si je pouvais peser sur un piton et éliminer dès le départ toute forme d'angoisse, est-ce que je le ferais? C'est pas évident.
Mais non.
Mais comment?
C'est pas évident.
Mais docteur Baruel, qu'est-ce qu'on fait si on a une crise hépatique, une crise d'angoisse? Qu'est-ce qu'on médite? On nettoie notre frigo? On passe la tondeuse? Qu'est-ce qu'on fait?
Ah oui, c'est ça. On peut nettoyer le frigo. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin d'une hyperactivité et qui nettoient leur frigo ou qui d'autres qui se mettent à méditer. La méditation, ça peut être aussi un peu... basique. En réalité, on pourrait faire une méditation basique, c'est-à-dire simplement s'asseoir et se goûter ou se retrouver dans la tranquillité et dans la paix. Voilà.
Est-ce qu'il y a une médication? Est-ce que vous prenez des médicaments? Prenez-vous des médicaments?
Non.
Alors, est-ce que vous faites encore
des... Ça me tente pas.
Est-ce que vous faites encore des crises de panique?
Oui. La plus importante.
Souvent?
Là, je vais la raconter publiquement.
On est juste entre nous, souvent.
Non, mais la plus importante, je l'ai faite récemment au funérail de Jeannine Dussuteau. Je vais essayer de la raconter rapidement. Moi, j'allais là pour soutenir mon ami Jean-François Lépine, dont c'est la belle-maman. C'était la belle-maman. Et j'arrive là. Et bon, c'est l'église Saint-Germain d'Outremont, pour ceux qui connaissent. Il y a un grand escalier qui nous mène à l'église. Et là, il y a des caméras, des photographes, des caméras de télé, tout le kit, parce que les stars vont être là, toute l'équipe. Et moi, j'ai pas du tout envie de passer par là. Je vais là pour mon ami, Jean-François Lépine. Je veux passer par la petite porte de côté que je connais très bien, parce que c'est un peu l'église de mon enfance. Puis là, il y a deux policières très gentilles qui me disent « Monsieur Craig, vous pouvez pas passer par ici, vous devez passer par en avant. » Je passe par en avant, évidemment, je me fais arrêter, poser des questions, ça m'indispose.
Le défenseur des droits que je suis vous dirait qu'il aurait dû vous accommoder.
Ben oui, mais ça m'indispose. Alors, j'arrive dans l'église, et c'était très long. Et à un moment donné, je me suis dit, tout d'un coup, je m'évanouis. Et là, ça part.
Ah,
et là, le
ça.
Syndrome de l'évanouissement commence à me gagner de plus en plus. Écoutez, je pèse 235 livres, moi.
Ouais.
Alors, le premier ministre est là. Le maire, c'était Coderre dans le temps. Le maire, les notables sont là. Tous les artistes sont là. Imaginez 235 livres qui tombent à terre. Ça fait du vacarme. Ça aurait arrêté la cérémonie. Alors, moi, tu penses à tout ça, là.
C'est quand le dialogue, intérieur?
Non, c'est pas des mots, là. C'est des flashs, c'est des images.
OK, ça se bouscule, là.
Et puis là, ça devient incontrôlable, malgré la thérapie que j'ai suivie, malgré tout. Mais ça a arrêté à un moment donné, parce que ça va pas jusqu'à l'évanouissement.
Donc, c'est des scénarios qui amènent à la panique. Faux scénarios?
Il y a quand même docteur, au secours.
Oui, il y a une sorte de cercle vicieux, quand même.
Probablement... Quand est-ce que ça m'est arrivé? Oui, mais ça m'arrive toujours dans des cas où j'ai... Bon, par exemple, j'étais à la radio, tiens, avec Dominique Poirier. On faisait des directs. Et à un moment donné, j'ai un tout petit début de syndrome d'évanouissement. Puis, pouf, ça s'en va. Puis là, j'ai plus de souffle. Je n'ai plus de souffle. Mais m'entendez-vous, là? Je parlais à peu près comme ça. Et là, là, moi, j'étais un gars fort, hein? J'étais un peu un bœuf. Et là, là, je mets ma force totale dans la résistance. Mais ta force se retourne contre toi. Parce que ce qu'il faut faire, parce que vous posiez la question...
Oui, qu'est-ce qu'il faut faire?
C'est dire, ben viens en crise de panique. Let's go. Ah ouais,
on
viens.
Le vit, on a du fun.
Il faut, plus tu résistes, plus tu résistes à la crise. C'est comme un peu un judoka. Le judoka se sert de la force de l'adversaire pour le terrasser. Mais la crise de panique se sert de toute la force que tu mets pour lui résister, pour te terrasser. Alors, plus tu vas résister à une crise de panique... pire ça va être.
Okay.
Je pense qu'une des choses qu'on peut faire, c'est respirer par le ventre. On c'est respire ça. Trop par les, poumons. Nous. Il faut respirer par le ventre. Et la méditation, comme dit le Dr Baruel, est très, très, très utile aussi.
La méditation, c'est heureux. On est content de méditer sur la santé grâce à vos histoires. On trouvera un peu plus tard Dr Baruel pour expliquer ce qui se passe dans ce moment de crise de panique. Mais on va revenir sur d'autres préoccupations santé dans quelques instants de Pierre Craig.
Craig, la santé vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre santé?
C'est le cas de le dire que la santé me tient à cœur. J'ai failli y passer à cause de mon cœur.
Avec une tourtière?
Ouais, mais l'histoire de la tourtière, ça c'est pendant que je faisais mon infarctus. Mais tu sais, docteur, probablement que vous connaissez ça. Quand on fait un infarctus, c'était la plus grande douleur de toute ma vie. C'est comme si une main géante me prenait la poitrine en étau puis l'écrasait tranquillement. J'avais une douleur dans le bras gauche. Écoutez, on n'est pas idiots, on le sait. Mais il y a un déni qui s'installe. Peut-être que le déni aide... Je me suis levé, j'avais une tourtière au four parce que je recevais mes enfants le lendemain. Puis une tourtière saguenéenne, ça pèse quoi, 10, 12 kilos à peu près. Ça fait que je suis allé sortir ça du four, j'ai regardé ça, je l'ai remis dans le four, puis j'ai continué à faire ma crise cardiaque après. C'est fou, là, mais c'est ça, on est dans le déni. Mais votre question, c'était comment on prend soin de sa santé?
Mais, oui, mais est-ce qu'il y a un lien, puisque vous avez vécu les deux, est-ce qu'il y a un lien entre la crise de panique et la crise cardiaque dans le
Ben, c'est possible, parce que j'ai demandé au cardiologue qui me suit. J'ai dit, qu'est-ce qui cause ça exactement? Il m'a dit, écoute, il dit, à l'intérieur de tes artères coronaires, les artères, tu sais, le cœur, c'est un moteur. Hein? Il pompe de l'huile, là, il pompe le sang, mais lui-même a besoin, c'est-à-dire, il pompe de je sais pas quoi, on va dire, il pompe de l'essence, mais lui-même a besoin d'huile pour fonctionner. Et l'huile, docteur, si je dis des niaiseries, vous m'arrêtez.
C'est la bastonnade, Pierre.
Non, mais le muscle cardiaque a besoin de sang pour vivre et travailler, et c'est les artères coronaires qui amènent le sang. Bon. Et il m'a dit, écoute, il dit, tout le monde... Il dit, on fait des autopsies sur les jeunes hommes qui mouraient à la Première Guerre mondiale, des 17 ans, là, des 18 ans, et ils avaient tous une espèce d'enduit dans leurs artères, un enduit qui couvrait l'intérieur de leurs artères. Il dit, quand t'es stressé, ça crée des brèches dans cet enduit-là, et ça fait saigner, et là, t'as des globules rouges qui viennent, j'espère que je dis pas trop de niaiseries, t'as des globules rouges qui viennent essayer de guérir ça, et ça fait vous me reprendrez. Ça fait, comment on appelle ça, là, un caillot. Et c'est ce caillot-là qui bloque l'arrivée du sang au muscle cardiaque et qui peut faire en sorte que le muscle va se nécroser, c'est-à-dire que le muscle du cœur va mourir ou une partie du muscle du cœur va mourir. Mais moi, j'ai été chanceux parce que mon cœur est presque aussi bon qu'avant.
Ce qui m'intéresse, c'est quoi le déclic maintenant que vous avez vécu tout ça? Comment vous prenez soin de vous? Anxieux? Vous avez eu une crise cardiaque? C'est quoi là maintenant? Vous êtes transformé de quelle manière?
Ben,
qu'est-ce que vous faites?
Est-ce qu'on est transformé? Ben, écoutez,
il s'est passé quelque chose quand même.
Oui. J'ai maigri, mais j'en ai repris. J'ai maigri, mais j'en ai repris. Je prends un coup une fois de temps en temps.
De quoi?
De vin. j'ai suivi des cours de méditation, mais je n'en fais plus. Je devrais m'y remettre. Mais je m'entraîne. Ce matin, je suis allé à l'entraînement au gym. Je m'entraîne trois fois la semaine. Je fais trois fois 30 minutes de cardio. Je fais de la musculation, des choses comme ça.
Oui, ça se voit.
Ouais, merci. J'essaie de Je mange bien. J'essaie de bien manger. C'est moi qui fais la bouffe, alors je mange pas d'aliments transformés. J'essaie de bien manger.
Et pour les gens qui sont à l'antenne, ouais, je sais que vous avez été partie prenante de l'association Revivre. Pour les gens qui souffrent d'anxiété, qui ont même des problèmes de santé cardiaque, etc., qu'est-ce que vous leur diriez pour un peu les encourager? Quelle est la lumière au bout du tunnel lorsqu'on a des problèmes de santé aussi graves, et je parle dans les deux cas de figure?
Ben d'abord, je pense que l'angoisse, le stress, l'anxiété, moi, j'appellerais pas ça un problème de santé grave. Je pense que ça touche... Écoutez, j'ai vu des chiffres qui disent que ça peut approcher les 30 % de la population. Bon. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça s'appelle un mal du siècle? Je sais pas, mais on se disait ça, Dr Baruel et moi, avant de commencer. C'est l'angoisse, le stress, c'est un vieux compagnon ou une vieille compagne qui va rester avec moi toute ma vie. Je réglerai pas cette affaire-là. C'est là... Il faut que j'apprenne à vivre avec ça. Ça fait partie de ma vie. Moi, si des gens font des crises de panique, je leur conseille éminemment d'aller consulter. C'est pas des thérapies de 10 ans, là. C'est une thérapie assez mécanique pour savoir, l'axiome principal, c'est surtout ne lutte pas contre cette affaire-là. Tu luttes, la force que tu déploies se retourne contre toi. Alors, ouvre-toi, ça vient. Souvent, là, je vais ressentir un début de ça. Je dis, OK, c'est correct d'abord, puis ça s'en va. Un peu comme un ver de terre qui sort de terre, puis oups, qui retourne sous terre.
Est-ce que l'entourage peut nous rendre anxieux? Les gens qu'on fréquente?
Ben oui, ça dépend de qui ils sont. Ben oui, écoutez... C'est Sartre qui disait l'enfer, c'est les autres. Bon, ben, je pense que l'anxiété, si vous vivez seul sur une île déserte, oui, vous allez peut-être être anxieux parce que vous savez qu'il y a. Mais imaginons là, que vous arrivez sur une île déserte. Vous n'avez jamais su qu'il y a une humanité qui existe parce que vous êtes tout seul sur votre île déserte. Allez-vous vivre de l'anxiété? Je sais pas, je suis pas sûr. L'anxiété naît du rapport, à mon avis, qu'on a avec les autres et peut-être d'une certaine crainte de se retrouver dans des situations inconfortables, ridicules ou je sais pas quoi, moi. Ou de pas être capable, de pas être à la hauteur. Hein, le syndrome de l'imposteur dont beaucoup d'artistes, de chanteurs, etc. nous disent qu'ils souffrent. C'est toujours dans un rapport à l'autre ou aux autres, le stress et l'anxiété. Mais maintenant, je vous dis, d'après moi, ça ne se règle pas. On apprend à l'apprivoiser, à vivre avec. Et comme je vous dis, ça donne beaucoup d'humanité.
Mmh. Est-ce que c'est héréditaire?
Aucune idée.
Vos parents étaient anxieux?
Oui.
C'est quand
mais
même
qui ne l'est pas vraiment?
Non, c'est considéré comme... Ouais, Docteur Baruel, c'est considéré comme une maladie mentale, l'anxiété.
Ah, oui, c'est vrai que... Bon. C'est vrai. C'est vrai et c'est assez aberrant, d'ailleurs, hein.
Pourquoi?
Parce que ça fait partie, c'est pas une maladie mentale, c'est tellement fréquent que ça devient pratiquement un état normal dans la société dans laquelle on vit maintenant, en fait. On en a même besoin.
Oui, mais il y a des gens plus
affectés. On court après.
Il y a quand même 280 000 personnes qui font des crises de panique, c'est énorme.
Tantôt, là, quand l'émission a commencé, Benoît a omis de faire ma biographie puis que vous l'avez regardé d'un air surpris. Avez-vous ressenti de l'anxiété?
J'ai regardé, moi.
Oui, parce qu'il devait faire ma biographie, il l'a oublié. Avez-vous ressenti
non,
de l'anxiété?
Non, c'était prévu que je la fasse pas.
OK, c'était
okay. Amenez-moi pas là.
Bon, je vous présente Pierre Craig. Non, attendez. Il a fait la facture à Radio-Canada.
Catherine... Non.
40 ans de métier.
Non. Non, je vous ai vu le regarder, vous aviez l'air. Vous avez ressenti un petit peu d'anxiété, un petit quelque chose, là.
Non.
Vous n'étiez pas sûr de comment ça allait marcher.
Donc, c'est le moment où l'intervieweur devient l'interviewé.
Voilà.
Excellent. Mais
je le suis un petit peu anxieux.
Nous sommes. Vous avez raison.
J'ai un peu de sudation ici.
C'est ça.
J'ai plus de sudation que d'habitude.
J'ai les mains moites.
Non, mais nous sommes des êtres anxieux parce que nous voulons performer, parce que nous sommes en interaction.
C'est
vous
ça.
Avez bien raison.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, on va démystifier... On va démystifier ça un peu mieux.
On va tous à l'hôpital, là.
Avec Dr Baruel à l'hôpital, bien entendu. Nous sommes avec Pierre Craig aujourd'hui, qui se tient en forme, qui fait attention à son cœur. Mais donc, on a avec nous pour la première fois Emmanuel Widakar, qui est éducateur physique Et donc, il va un peu nous dire comment il est possible. On est debout, là, faut que vous le sachiez, là, vous voyez pas là, à la maison, mais on est debout pour se donner un petit peu de tonus.
Les deux genoux sont debout, les deux plus vieux sont assis bien tranquillement, bien sagement.
Mais tout le monde va se lever plus tard, on va essayer ça. Mais avant tout, j'avais envie de distinguer quelque chose. Vous êtes éducateur physique. Dr. Baruel parle souvent de la kinésiologie. Expliquez-nous de quoi s'agit-il dans les deux cas.
Bonjour à tout
bonjour.
Le monde.
Bonjour, oui, d'abord.
Alors, entre un éducateur physique et un kinésiologue, il y a évidemment une légère différence qui est sur la destination de la formation des deux. L'éducateur physique est destiné à devenir un enseignant en milieu scolaire, principalement, alors que le kinésiologue, avec la formation qu'il a reçue, va travailler avec les personnes, les individus, dans une salle de conditionnement ou simplement va s'orienter vers la thérapie. Ça peut être de la physiothérapie, de l'ostéopathie ou bien d'autres choses que eux ils sont à même de pouvoir continuer à faire.
Donc vous, dans votre pratique, ce qui est intégré, c'est que vous éduquez le monde à ce qu'il soit plus en santé.
Plus en santé. Donc maintenant, actuellement, on parle de baccalauréat d'éducation physique et à la santé. Donc il y a cet aspect éducatif qui est plus poussé avec l'éducateur physique. Le kinésiologue aussi va être en mesure de pouvoir éduquer, d'expliquer les choses aux gens, mais l'éducateur physique est spécialisé pour le milieu scolaire. C'est ça la grande différence.
Pierre Craig, d'ailleurs, apprécie là, qu'on éduque les gens à l'éducation physique, tout ça. Et sinon, vous avez travaillé avec des jeunes, vous avez travaillé avec des gens qui s'entraînent à des hauts niveaux.
À des hauts niveaux, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes, des gens qui s'entraînent, monsieur, madame, tout le monde, qui veut se maintenir en santé ou bien qui veut pousser un peu plus loin et qui prépare une compétition sportive, que ce soit pour un marathon ou bien pour une compétition, se mettre simplement bien en forme, perdre du poids. Donc, il y a tout cet aspect-là que l'éducateur physique est capable de pouvoir traiter de même que le kinésiologue. Donc,
mais
on a une base commune.
Comment on s'adapte, par exemple, quand on veut s'adresser à des gens qui ont vécu, par exemple, un problème de cœur, qui ont vécu un infarctus ou qui ont des problèmes de santé dont il faut tenir compte?
Alors, la première chose que toute personne en milieu d'éducation physique ou bien dans le domaine de l'activité physique, de conditionnement physique doit faire, c'est de s'assurer que cette personne a l'autorisation de son médecin. On ne peut pas y aller sans l'avis du médecin et sans les recommandations du médecin.
Parce que pourquoi, en fait, l'établissement pourrait être sujet à des poursuites ou...
Oui, il pourrait y avoir des poursuites, mais la raison principale, c'est de préserver la santé de la personne. C'est ça, c'est la santé de la personne. Oui, c'est la santé. Et le médecin pourra être en mesure de donner des indications précises au kinésiologue ou à l'éducateur physique sur le niveau d'intensité de l'exercice que la personne doit pouvoir supporter ou bien devrait supporter. Et vers l'orienter vers le type d'exercice qu'il faudrait avoir pour cette personne.
Quand vous avez fait une crise cardiaque, là, après, ils vous font subir des tests. C'est des tests sur tapis roulant à haute intensité. Et il y a un cardiologue sur place, là. Un cardiologue qui fait le monitoring de tout ça. Puis moi, ils m'ont dit aucune restriction. Donc, moi, je pouvais m'entraîner, je pouvais monter mon rythme cardiaque à ce que je voulais.
Mais ils m'ont dit que
j'étais dans le top 10%, imaginez, des vieux de mon âge.
C'est parfait. Donc, ça veut dire que si vous voulez encore, vous êtes capable, vous êtes en mesure de pouvoir vous préparer à un marathon. À un marathon ou à une compétition de bodybuilding, par exemple.
De quoi? Non.
Parce qu'en fait,
je vais être capable de soulever mes sacs d'épicerie, cher ami.
Ben, alors ça c'est parfait, ça c'est génial.
Mais c'est quand même les besoins de la quotidienneté qui justifient généralement nos efforts, hein, soyons clairs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour le garder en forme? Parce que bon, Pierre-Claire a vécu des aspects particuliers dans sa vie, mais comment on le garde en forme, ce cœur-là, avec l'éducation physique?
Alors, avec l'éducation physique, ce qui serait important que moi, par expérience, ce que j'ai vu dans ma pratique, ce que j'ai vu faire, ce serait la première chose, la recommandation simple, c'est de garder les choses le plus simple possible. Pour une personne qui vient de subir une fracture du myocarde, qui a besoin de se remettre en forme, lui recommander de faire simplement de la marche. Très bonne marche, de la longue marche, c'est excellent pour cette personne, c'est excellent pour tout le monde. Et tout le monde doit être capable de pouvoir soulever son propre corps, de marcher, de se tenir droit, de bouger, de faire tous les mouvements, de s'asseoir, de se relever, de s'asseoir par terre, de se relever.
Parce que toutes ces petites tâches-là ou ces petites actions-là, c'est de l'éducation physique au fond.
C'est de l'éducation physique, c'est de l'activité physique.
L'activité physique, je m'en excuse.
Si cette personne a besoin de se remettre en forme, elle s'adresse à un spécialiste du conditionnement physique, à un éducateur physique, à un kinésiologue. Et on va commencer à lui faire du renforcement musculaire. soit avec le poids du corps, ce qui va être le plus simple pour continuer, pour s'assurer que tu fonctionnes bien. Et cette personne pourrait avoir, par exemple, Pierre Greg pourrait par exemple porter dans le cadre de son entraînement, simplement un transmetteur de fréquence cardiaque. Donc un appareil qui va permettre à son entraîneur de voir où sont rendues ces fréquences cardiaques pour s'assurer qu'on n'est pas en train de sortir de la zone de confort.
Mais il faut faire attention, par exemple, pour côtoyer beaucoup de gens anxieux, parfois seulement le fait de connaître sa pulsation cardiaque, c'est anxiogène.
Oui, c'est possible.
Mais bon, ouais. Non, mais vous avez raison, il faut faire attention, il faut monitorer. Peut-être qu'il nous reste assez peu de temps. Aujourd'hui, on ne sera pas en live ou en direct. Je m'en excuse pour mon mauvais français. Je ne sais pas si c'est
ça va être correct. C'est parfait. Ah, oui.
Non, tout va bien. On va l'assumer. Il y aurait peut-être deux ou quelques exercices qu'on pourrait faire qui ne seraient pas... Parce que M. Craig est pratiquement un athlète. Mais on l'a en sens aujourd'hui. On l'aime tant. Mais quand quelqu'un a besoin d'exercices plus doux et qui a fait face, par exemple, à un infarctus, peut-être qu'il y aurait un ou deux exercices à la maison, au-delà du fait de marcher, etc., qui pourrait l'aider?
Alors, simple. L'un des exercices qu'on appelle dans le domaine du conditionnement physique le king des exercices, ça pourrait être le squat, par exemple. Le fait de s'asseoir et de se lever.
Ah,
à la maison, on peut le faire.
Donc, j'ai assez de faire ça.
On a une chaise, oui.
Oui, voilà. J'ai une chaise. Donc, je m'assois, c'est ça?
Vous asseyez, mais assurez-vous d'avoir simplement d'arriver à avoir les jambes à 90 degrés.
Mais moi, je ne plie pas des deux côtés.
Ah, OK. Ouais, alors, mais à partir de là, quand
si
même...
Si jeune.
ça n'a rien à voir.
Alors, une fois que vous êtes assis, vous devez pouvoir arriver à vous relever simplement.
Ah, ah.
Et c'est déjà un exercice de squat qu'on est en train de faire.
Et vous allez voir, c'est un vrai exercice pour moi.
Bon, voilà. Pierre Greg vient de faire son squat. Il redescend. Voilà, c'est parfait.
On entend, je le fais. Oui. Même le réalisateur à l'arrière le fait en ce moment.
Tout le monde s'est mis à la partie.
Excellent. Donc, ça, c'est à la portée de tous quand même.
C'est à la portée de tout le monde. Mm-hmm. Et on peut le faire. On peut le répéter plusieurs fois. On peut le rendre un peu plus difficile en portant un poids. On peut remplir un sac de course, le porter au niveau de la poitrine et se lever avec. Donc, on commence à activer quand même la circulation, commence à activer les muscles à travers de cette manière-là.
Et donc, en terminant, peut-être faire un récapitulatif.
Oui.
Pour le cœur, il faut bouger.
Il faut bouger, il faut être actif et puis aussi, il faut avoir de bonnes habitudes de vie.
Mm-hmm.
Il faut éviter, par exemple, certains maux de notre société aujourd'hui, le tabagisme.
Mm-hmm.
Il faut apprendre à gérer son stress. Il faut éviter de boire trop souvent de l'alcool ou bien une trop grande quantité d'alcool.
Toutes des choses qu'on déteste faire, nous, autour de la table, c'est ça.
Donc, il faut adopter une voie moyenne, on va dire, en toutes choses.
OK, mais quand même, modération a bien meilleur goût, semble-t-il, mais avec un bon cœur. Merci beaucoup.
Merci, Benoît.
J'espère qu'on va se retrouver le mois prochain. Alors, on était avec nous, Emmanuel
Louis-Dacor,
éducateur physique.
Merci beaucoup.
C'est bon pour la santé.
Fairy tales can come true. It can happen to you if you're young at heart. For it's hard you will find to be narrow of mind and be young at heart. You can go to extremes. With impossible schemes, you can laugh when your dreams fall apart at the seams, and life gets more exciting with each passing day. Love is either in your heart or on its way. Don't you know that it's worth every treasure on earth to be young at heart? And as rich as you are, rich as you are, it's much better by far to be young at heart. And if you should survive to 105, think of all you derive out of being alive. This is the best part. You have a head start if you are among the very young at heart. If you are among the very young at heart.
Mais c'est votre émission. Alors un peu de rire au travers de cette anxiété, ça fait du bien. C'est pour ça qu'il y a une émission, mais surtout, c'est pour ça que Dr. Baruel est avec nous. Dr. Baruel, qu'est-ce que c'est sur le plan médical, l'anxiété? Expliquez-nous ça un peu mieux encore.
L'anxiété, c'est se préparer à répondre à une situation dangereuse, de danger, de mise à l'épreuve. Comme tous les animaux, hein, c'est pareil. Et donc, ça commence par une augmentation du rythme cardiaque, ça commence par une sécrétion d'adrénaline. On augmente la tension artérielle, la tension musculaire, et parfois ça va trop loin. Bon, c'est là que la crise de panique, mais ça c'est quand c'est plus beaucoup plus violent. Mais la crise, l'anxiété elle-même, c'est très bon, c'est nécessaire, c'est même un peu obligatoire, parce que sinon on n'est pas super performant, on est moins performant. Si on n'a pas le trac, comme vous disiez tout à l'heure, si on n'a pas le trac, on n'aura pas de cette sécrétion qui va vous faire surperformer au moment où il le faut.
Alors, parce qu'il y a quelque chose qui est sécrété, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est sécrété?
C'est l'adrénaline. Voilà. Adrénaline et cortisol. Et tout ça, ça permet d'avoir une espèce... On est boosté, quoi, finalement. Mais à condition que ce ne soit pas trop violent.
On se prépare à fuir ou à combattre.
On se prépare à fuir ou à combattre, c'est exactement ça. Donc, c'est parfait pour le sport. Alors ça, c'est l'idéal. C'est un autodopage, hein, finalement. Mais c'est aussi bon pour les étudiants qui se mettent à travailler 3 jours avant comme des fous pour arriver à passer leur examen. Et puis aussi pour les artistes, parce qu'ils vont être beaucoup plus à l'aise. Une fois qu'ils auront dépassé le trac, ils auront toutes les hormones qui vont leur permettre de répondre exactement.
Mais juste à côté, il y a le cœur aussi qui bat la chamade.
C'est justement ça le problème. C'est qu'en fait, avant 30 ans, autour de 30 ans environ, il est classique de recevoir en consultation des jeunes hommes, la plupart du temps des jeunes hommes, qui arrivent et qui disent « Je crois que je fais un infarctus, j'ai mal, c'est horrible. » Et en fait, c'est la manifestation typique de l'angoisse chez le jeune cadre dynamique, mais il n'a pas du tout d'infarctus. Il a juste cette douleur et cette angoisse d'avoir un infarctus, parce qu'il y a ce sentiment de mort imminente.
Mais comment on fait pour départager les deux?
Et ben de là, il faut évidemment aller aux urgences. Ou appeler un médecin qui va faire un électrocardiogramme, qui va vérifier, qui va regarder, qui va dire « Non, allez, calmez-vous, il n'y a pas de problème. Regardez, enfin, vous avez 30 ans. À votre âge, est-ce qu'il y a des antécédents familiaux d'infarctus ?» Non. Bon, vous êtes sportif, vous êtes bien, il n'y a pas de problème. Par contre, après 50 ans, après 45 ans, on commence à voir apparaître des risques. Et ça, c'est un petit peu d'athérome dans les coronaires, dont Pierre parlait tout à l'heure. Quand vous avez les coronaires qui ont un diamètre un petit peu plus petit, c'est-à-dire les coronaires, ce sont les artères qui nourrissent le cœur lui-même, le muscle lui-même, eh bien, si vous avez de l'adrénaline en quantité importante, il va y avoir une diminution du diamètre de ces artères.
Ah oui.
Et du coup, si le cœur se met à accélérer et à pomper plus fort, et à travailler plus pour monter la tension artérielle, eh bien, il n'y aura plus assez d'oxygène dans le cœur lui-même.
Qu'est-ce qu'on va faire? On prend-tu des médicaments? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Ah ben dans ce cas-là, il faut prendre des médicaments. Il faut prendre notamment, on peut donner des dérivés nitrés, de la trinitrine, qui ouvre brutalement les artères coronaires et qui réoxygène le muscle lui-même.
Ils m'ont donné ça, moi, une petite fiole rouge de nitroglycérine.
C'est ça.
Et en me disant, ne l'échappe pas, non, elle n'explose pas.
Fais attention, c'est dangereux.
Je m'en suis jamais servi.
Les activants, est-ce que c'est efficace?
Oui.
Mais c'est pas... Il n'y a pas une dépendance aux activants?
Ben oui.
Ben après, oui, bien sûr.
Attention. Benoît, t'en prends?
J'ai eu une période, j'ai eu des problèmes de santé dans ma vie et j'ai moi-même décidé d'arrêter parce que je sentais l'accoutumance beaucoup trop grande. Même la difficulté de m'endormir sans les avoir. Enfin bref, on n'est pas...
Mais il vaut mieux pas prendre ces choses-là.
Non, c'est
si
ça.
Si on
c'est
peut
pas,
éviter ce genre de choses...
C'est en dernier recours à la
rigueur. Oui, c'est vraiment en dernier recours.
Mais je suis content parce que vous avez quand même montré le lien entre les deux et qu'on le veuille ou non, en vieillissant, on a comme l'armature un peu moins préparée pour des surdoses d'adrénaline.
Ouais.
C'est ce qu'il faut accepter.
Tout à fait.
Donc, on continue de se motiver autrement avec la tête, disons.
Mais c'est ça. Oui. Exactement.
Okay.
Mais de toute façon, je crois qu'on évite, justement, avec le temps, l'anxiété diminue. Peut-être que c'est parce que le corps dicte cette espèce d'accoutumance ou d'acceptation.
Mm-hmm.
Peut-être qu'en vieillissant, on finit par le ressentir et qu'on ne peut pas se permettre. Comme vous disiez, on n'a plus le luxe de se permettre une grande crise d'angoisse qui va vous faire une vasoconstriction des coronaires. Et donc, on finit par
se... C'est très poétique, hein?
Mais ouais. C'est poétique. Docteur Barrel, c'est une poésie.
Vous pouvez me l'écrire?
C'est un luxe.
J'en ai plus le luxe.
C'est un luxe.
En caractère.
C'est vrai qu'à partir de 50 ans, il faut faire attention.
C'est intéressant ce que vous dites. Peut-être qu'on accorde moins d'importance à ce que l'on pense de nous, mais il y a quelque chose de très profond, il y a quelque chose de très incontrôlable là-dedans. Et même si, vous savez, écoutez, on se voit vieillir, là, on se voit évoluer, puis j'accorde beaucoup moins d'importance que quand j'avais 30 ans, j'en ai 66 aujourd'hui, à ce que les gens pensent de moi. Il y a quelque chose de l'ordre de l'incontrôlable pour moi qui continue à s'en faire. Je pense, et c'est ça qui crée l'angoisse. C'est ce morceau de moi sur lequel je n'ai pas vraiment de contrôle. Mm-hmm. Et lui, il fait ce qu'il veut, ce morceau-là. Bon, moi, je peux être plus calme qu'avant, je peux avoir beaucoup moins peur de dire ce que je pense. La preuve, c'est que j'en parle, puis je me sens pas mal d'en parler. Mais il y a cette espèce de lieu intérieur qui, ouais, lui, est comme un enfant paniqué, à la limite. Là. C'est comme un enfant.
C'est exactement le mot. C'est votre enfant paniqué, même, peut-être, on pourrait dire.
Et donc, il faut se prendre par la main.
Mm-hmm. On va pas mettre cette chanson-là, je vous l'assure, mais avant qu'on se quitte, Dr. Baruel, avant qu'on se quitte, la panique, est-ce qu'il y a une trousse qu'on doit avoir ou quelques outils auxquels on doit penser quand la panique survient? Parce que Pierre Craig l'a subi encore parfois.
Non, comme disait Pierre Craig tout à l'heure, c'était parfait, c'est qu'il faut la laisser venir, en effet. Il faut s'asseoir, la laisser venir, attendre, essayer de faire une sorte de méditation de base, une méditation simple. Pas la peine de chercher des choses très compliquées, mais il faut essayer simplement de se ressentir soi-même et de se laisser passer. Maintenant, il y a aussi d'autres choses. On peut prendre quand même certains médicaments en cas de... Je voudrais juste en parler. Il s'agit en fait d'un médicament qu'on a découvert, qu'on a retrouvé en 2000 et qui permet... On s'est aperçu qu'à certaines doses, il permettait de traiter...
Ah ouais.
L'alcoolisme.
C'est notre grand-mère qui nous disait ça.
Non,
c'est quoi?
C'est le baclofène.
Ah, oh, ben pardon, je pensais que vous alliez parler de l'autre, la petite Atassol, là. Non?
Non.
OK, je m'excuse.
Non, parce que ça, c'est un médicament qui n'a rien à voir avec l'alcoolisme au départ, mais c'est quelque chose qui, au contraire, coupe les crises d'angoisse et les crises de panique.
Ah.
Et ce médicament-là sert, en fait, toutes les addictions, la plupart des addictions, sauf le tabac, puisque c'est une addiction chronique, toutes les addictions aiguës, ce sont des crises de panique.
Quels sont ces effets secondaires?
Ouais. Ah ben, je vois que vous en avez parlé.
Non, j'ai jamais essayé, mais vous en parlez, ça m'intéresse, évidemment.
C'est une somnolence pendant les premiers jours.
OK.
Une faiblesse des bras pendant encore quelques semaines. Et puis ensuite... Mais, l'avantage, c'est qu'on n'a plus ces crises de panique.
Okay. Mais c'est un médicament qu'on doit prendre...
À vie.
Attention.
Je vous dis ça, c'est un médicament qui est à l'origine, enfin qui permet de traiter les crises de panique... mais ce sont vraiment les crises qui sont invalidantes.
Ouais. Mm-hmm.
Celles qui surviennent tous les 3 jours, tous les 2 jours, ou qui vous emmènent vers l'alcoolisme le plus profond.
Il y a un bouquin qui s'appelle « La peur d'avoir peur ». Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le petit bouquin rouge là, que j'ai lu, qui est très, très utile à lire. Et une thérapie, moi, la thérapie que j'ai suivie, j'ai rencontré des psychologues pour d'autres trucs, parce que pour moi, avoir le psychologue, c'est comme aller au gym. Mmh. Je m'occupe de ma santé physique, m'occupe de ma santé mentale. Mmh. Mais sur la question de la panique, j'ai vraiment vu une psychologue de façon précise là-dessus. Ça a peut-être été une dizaine ou une douzaine de rencontres. C'était, bon, c'est tout. Mais je pense que...
Mais vous avez mis des choses dans votre coffre à outils pour être sûr
ouais,
de bien réagir à la panique.
J'en ai fait une Puis, ouais.
Je vous
le
dis, je suis désolé d'ajouter au-delà de la médecine, quand vous sentez, vous connaissez bien,
Vous avez des intuitions, vous sentez quand ça survient. Il faut être capable. Non, vous êtes pas capable.
Mais, cette fois-là, je ne l'ai pas vu venir.
Mais si c'est le cas, il faut dire aux gens, écoutez, je ne peux pas être dans cette situation-là qui pourrait être pour moi anxiogène.
L'avant-dernière, je faisais une conférence. Oui. Je commence ma conférence qui dure 35 minutes. Et là, je n'ai plus de salive dans la bouche. Mais plus du tout, là. Alors, et là, tu te dis, bon, ils vont m'entendre. Mais tu fais ta conférence pendant ce temps-là, puis la petite voix dit, mais ils vont s'en rendre compte, ils vont s'en rendre compte. Puis en plus, niaiseux, il y avait un verre d'eau, moi niaiseux, il y avait un verre d'eau à peu près à 3-4 mètres de moi, trop nono pour dire aux gens, je m'excuse, j'ai besoin d'avoir un verre d'eau, puis d'y aller. La panique, là, t'as beau, j'ai suivi une thérapie, j'ai lu le livre, tout ça, là. Mais quand ça te prend, ça peut te prendre, et assez violemment, mais c'est pas la fin du monde, je suis pas mort.
Ouais.
Tu sais, bon, êtes... personne, je me suis pas rendu ridicule, mais ça cogne fort.
Ouais. Ben, ça va continuer de cogner fort. Merci, Dr. Baruel, vous restez avec nous puisque la question de la fin, elle est essentielle et c'est à vous qu'on la pose. Et on trouve encore quelques chroniqueurs pour nous parler de C'est bon pour la santé.
Tu détestes ta jeunesse, tes beaux cheveux blonds juvéniles qui descendent comme la vie près du mouvement de tes cils. Tu détestes ceux qui, grâce à l'amour, ne sont plus les mêmes. Tu préfères dire je t'aime à grands coups de bouquet de haine. Tu n'es pas certain d'être bien, mais jamais tu ne l'avoueras. Avoir des gestes qui font rêver, c'est tout ce qui compte ici-bas. Les magiciens des temps modernes savent bien comment mentir, comment fabriquer le beau en tuant quelques souvenirs. Tes amis sont bien, mais tu comprends le mal du grand savoir que même ne pourraient goûter malgré leur force noire. Tous ensemble, vous jouerez sans malaise aux grands enfants blasés qui tanguent de la tête sur des rythmes fantomatiques saccadés. Tu repenses à tes amours, à tous ceux que tu as baisés, à quel point ils avaient l'air heureux d'avoir pu te consommer. Tu as pris un verre de trop, mais c'était pour équilibrer les sensations provoquées par tes rêveries colorées. S'étourdir est un remède facile quand l'âme a la nausée. Face aux complications répétées par la vie imposée, tu danses muet près de ton ami, celui qui sait te parler, te raisonner quand tes larmes reviennent au pas comme une armée. C'est le seul moyen que tu as pu trouver pour oublier le poids de la solitude qui revient sans cesse te hanter. Tu le sais pourquoi, mais même les mouvements dictés par ton cœur font que tu te sens abandonné au milieu de tes peurs. Crois-tu qu'un jour, malgré tout, tu seras capable d'aimer? Seul moyen possible de le savoir, c'est de recommencer. La science du cœur est un objet d'abstraction propulsé par la volonté qu'ont les gens tristes à se laisser toucher. Ça fait déjà 4 jours que tu n'as pas dormi. Dans ta tête, de la musique résonne, te réveille dans la nuit. Comme si ta peine avait donné naissance à une symphonie. Est-ce là le signe annonciateur d'une prochaine folie? Tu repenses à ta grand-mère, tu dis qu'elle t'a vraiment aimé. Tu revois sa couche pleine venant tout juste de déborder. Le contraste est trop mince entre début et finalité. Mais tu te résignes sans peine devant cette fatalité. Tu regardes tes vêtements et cette image immaculée que tu projettes sans vouloir comme un jeune enfant surdoué. Tu te dis qu'un jour, c'est certain, tout ça sera démodé. Que chacun des trophées que tu portes brûlera dans l'éternité. Que ton corps devenu flasque et faible aura tout effacé. Les traces de ta jeunesse, les traces trop fragiles de l'été.
plusieurs manières de nourrir le cœur et nourrir l'estomac. Évidemment, une chroniqueuse est avec nous pour en parler. Comme d'habitude, je parle de Claudine Larivière, qui est nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. Bonjour, Claudine.
Bonjour.
Alors, l'histoire de Pierre Craig tourne souvent autour de ses moments de vie, là, que ce soit l'anxiété, le fait qu'il a subi un infarctus, mais aussi autour de lui. Il y avait cette sœur qui souffrait d'obésité morbide et on vous a demandé peut-être de réagir sur la question en parlant de la malnutrition ou de la surnutrition. On vous écoute, très chère Claudine.
Oui, bien en fait, je voulais vraiment parler de la malnutrition parce que souvent les gens pensent que parce qu'on est obèse morbide, qu'on a plein de réserves puis qu'on n'a pas besoin vraiment de se soucier de la quantité d'énergie qu'on va consommer en autant qu'on atteint l'objectif de perte de poids.
Mm-hmm. Donc, qui est presque une obsession, hein?
Pardon?
Qui est presque présentée comme une obsession. Il faut maigrir à tout prix. Ouais.
Oui, absolument. Puis on porte beaucoup de jugements. Il y a beaucoup d'étiquettes qui sont mises sur ces personnes-là. On pense que les personnes obèses d'obésité, en fait, surconsomme les calories à tous les jours. Mm-hmm. Mais dans le processus, on oublie beaucoup de faire de la prévention par rapport à la malnutrition. Donc, je m'explique, c'est pas parce qu'on mange moins qu'on va nécessairement aller rencontrer tous nos besoins, que ce soit au niveau énergétique, au niveau des vitamines, au niveau des minéraux. Et ça veut pas dire non plus qu'on n'est pas à risque de malnutrition puis qu'on a des réserves à plus finir simplement parce qu'on a un surplus de poids. Mm-hmm. Donc, c'est un concept, une mauvaise conception qu'on a en fait de cette situation-là.
Et quel genre de stratégie on adopte à ce moment-là?
Ben en fait, c'est de vraiment trouver une stratégie qui va être personnalisée, qui va vraiment rencontrer au moins, au minimum, les besoins de notre survie. Donc, il s'agit de bien s'entourer avec une bonne équipe qui est capable d'aller chercher ces chiffres-là pour pouvoir, après ça, élaborer une stratégie nutritionnelle qui va rencontrer au moins le minimum des besoins de cet individu. Donc ça, c'est super, super important de pas tomber dans les pièges des diètes restrictives et draconiennes en se disant que c'est pas grave, de toute façon, on a tout ce qu'on a besoin en réserve.
Et qu'est-ce qu'on évite comme produit?
Ouais.
Quel genre de diète on adopte?
Oui, bien, c'est vraiment d'éviter tous les produits de diète. Donc, on peut manger seulement des aliments qui sont réguliers, donc pas nécessairement allégés, qui vont nous apporter des calories. Il ne faut pas avoir peur des calories. Parce que quand on mange, l'idée, c'est que chaque bouchée, bien, il va venir nous rassasier, puis pas simplement au niveau de l'estomac, je me sens plein ou je me sens pleine, mais qui va venir aussi rassasier notre corps en termes de calories puis de nutriments. Donc, c'est important de ne pas tomber non plus dans ces types de produits-là qui vont simplement nous bourrer, mais qui, à la fin de la journée, ne va vraiment pas venir rencontrer nos besoins là, au niveau énergétique, comme je disais, mais aussi au niveau des nutriments. Tu sais, l'exemple du yogourt 0%, là, bien, c'est bien beau, mais s'il donne 35 calories, mais un produit laitier est censé aller te donner 120 calories. Fait que moi, ce qui arrive, c'est que quand je fais du coaching, ben, je vais leur dire, ben, il faudrait 4 yogourts 0% pour en fait aller chercher la valeur nutritive d'un produit laitier. Mmh. Fait que c'est vraiment d'éduquer les gens à ce niveau-là.
Beaucoup d'éducation, encore une fois, des choix à faire un peu tous les jours. Et vous le dites souvent, il faut miser sur la qualité, la fraîcheur. C'est devenu vos mots d'ordre à l'émission.
Oui, c'est sûr que ça revient, oui.
Il faut aussi aller du côté du cœur cette fois-ci, puisque, évidemment, on prévient l'obésité par une bonne nutrition, on évite la malnutrition, mais ce cœur-là, qu'il ait vécu des difficultés ou pas, il faut bien le nourrir. Comment on fait?
Bien, en fait, c'est ça, c'est très pesant. Le surplus de poids, l'obésité, va avoir un impact sur notre masse musculaire, sur notre masse osseuse. Fait que c'est important de vraiment bien nourrir notre cœur parce que c'est lui qui va faire en sorte que les nutriments vont être bien distribués dans le corps. Donc, c'est important de miser sur les fibres, donc de vraiment aller chercher des aliments qui vont donner des fibres, des aliments qui sont le moins procédés possible. Souvent, on va entendre de grains entiers ou de blé entier. C'est vraiment les allégations par lesquelles on va aller quand on veut faire des choix au niveau des des produits céréaliers, par exemple. Les gens, je sais que c'est pas tout le monde qui aime les poissons, mais les poissons sont des aliments qui sont riches dans des bons gras. Encore une fois, on a peur d'aller vers les gras parce qu'on associe notre apport en gras alimentaire à au fait qu'on va gagner du gras corporel, ce qui est complètement faux. Fait que, encore une fois, c'est juste d'éduquer puis d'aller manger les bons gras. Éviter les aliments qui sont procédés le plus possible. Puis faire attention aussi, c'est pas tout le monde qui est végétarien puis végétalien. Oui. Donc, il y a encore des gens qui vont manger des aliments de source animale, ça va. Mais être conscient que les aliments à base de base animale vont avoir des gras qui sont plus saturés, par exemple, qui peuvent être des mauvais gras dans ce contexte-ci. Donc, aller peut-être plus vers des gras comme je disais, à base de poisson, mais aussi des gras qu'on va chercher dans les végétaux, là.
Bien.
Comme les avocats, par exemple. Ouais.
Vive les avocats.
Mais ça, on les aime.
Vinaigrette.
En plus, mais Pierre Craig est déjà sensible. Oui. Hein? Il nous le disait plus tôt. Il évite de manger la nourriture transformée, recherche la fraîcheur. Oui. Donc, c'est bon pour votre cœur.
Quand j'ai fait ma crise... Quand j'ai fait la crise cardiaque, on m'a dit que dans un monde idéal, il faudrait que je perde un peu de poids. J'étais à 243 livres. Désolé de vous le dire, docteur. J'étais un peu trop pesant. Et ce que j'ai fait... J'ai guetté mon indice de satiété. C'est-à-dire que je mangeais en étant plus conscient de ce que je faisais. Et dès que je cessais d'avoir vraiment faim, et c'est surprenant, j'arrêtais. Et c'est très surprenant. Ça n'en prend pas beaucoup, docteur.
Ça, c'est tout à fait
ça
vrai.
Bon, mais c'est parce qu'on aime ça se bourrer à la face.
Ouais.
On aime ça se bourrer à la face.
Et on a oublié la notion de satiété.
Mais ça n'a aucun sens. Écoutez... Quand je faisais cela, je pense que je mangeais le tiers de ce que je consomme habituellement, à peu près. Et j'ai perdu 25 livres, ça a pris moins de 2 mois. Je me voyais aller, là, ça diminuait, puis je me sentais bien. Puis Dieu qu'on se sent bien quand on perd un peu de poids. Mais c'est pas facile à faire guetter son indice de satiété. Faut vouloir.
C'est vraiment pas facile. Oui, parce qu'en plus, il y a la satiété au niveau mécanique, physiologique, comme vous avez fait, mais il y a aussi la satiété au niveau émotionnel. Puis quand on dit manger ses émotions, bien, il y a aussi cette composante-là qui est à travailler à travers le processus. Puis d'ailleurs, ça, c'est justement mon deuxième point, nourrir le cœur. C'est important de se faire plaisir quand même.
Ouais.
Donc, c'est de choisir des aliments qui vont nous rendre vraiment heureux aussi au quotidien. Mmh. C'est pas de tout éliminer ce qu'on pense qui peut causer là, l'obésité ou le problème de cœur dans ce cas-ci. Donc, c'est vraiment aussi de trouver du plaisir dans l'alimentation, malgré le fait que il faut faire plus attention, il faut travailler sur notre satiété, comme Pierre le dit. C'est parce que notre système digestif, c'est notre deuxième cerveau. Mm-hmm. C'est là où on retrouve le plus de neurones. C'est pour ça que quand on a faim, on devient irritable. Tout passe par notre système digestif, d'où l'expression « manger ses émotions ». Fait que c'est de retrouver aussi un équilibre émotionnel à travers le processus qui est très important.
Et c'est heureux, on en parle souvent. C'est une découverte assez récente. En tout cas, c'est étayé depuis peu là, qu'il y a une aussi grande, je dirais, responsabilité dans les intestins, dans le système digestif. Mais sortons un peu de l'interne de deux instants, si vous permettez, Claudine. Il y a autre chose qu'il faudrait faire pour que notre cœur aille bien. Ça, Pierre Craig le fait assez souvent aussi. C'est-à-dire?
Oui.
Bouger,
ça va avec, c'est sûr. La nutrition, c'est 80% du processus de remise en forme et de reprendre sa santé entre ses mains. Mais il y a 20% qui est l'activité physique. Et ça, ce que j'explique toujours en coaching et en conférence, c'est que c'est pas parce que ça vaut juste 20% du processus que c'est un 20% qu'on peut mettre de côté. Il est hyper important, ce 20%-là. Puis bouger, ça ne veut pas dire nécessairement aller au gym. On a aussi ce concept-là qu'il faut aller au gym. Mais ça peut être bouger dans son salon. Ça peut aller être faire une petite randonnée avec son chien. Ça peut être n'importe quoi, vraiment. Là.
Et ça crée du bonheur. Bouger.
Oui,
bon, moi, je fais du gym. Ou quand je marche, ce matin, je suis allé au gym. Et vous avez raison, c'est pas seulement le gym. Mais je suis revenu de là, j'avais des idées. J'étais pas arrêtable tellement que j'avais des idées. Et j'ai vu ma blonde qui était morose, J'ai dit, tu vas voir, après l'entraînement, tu vas être différent. Et elle était souriante, ça l'avait transformée. Oui. C'est rare de voir des transformations à ce point-là, mais l'exercice physique l'a transformée ce matin.
Absolument. Ben, je pense que Dr. Parwell va être d'accord. Puis en plus, ça rentre dans le contexte aussi de l'anxiété. Tu sais, bouger, ça nous permet de produire plein de belles endorphines qui nous permet d'augmenter notre sentiment de bien-être. Fait qu'un va avec
d'avoir du plaisir.
Un travail d'équipe, voilà. Oui, exactement.
Très heureux, semaine après semaine, d'entendre notre nutritionniste Claudine Larivière parler de plaisir en mangeant. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention. À bientôt.
Merci beaucoup. Bye.
C'est bon pour la santé.
Sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. And we live in a beautiful world. Yeah, we do. Places we've grown, all of us are done for.
Bonjour Catherine Bourdereau, microphone. Nous sommes en compagnie de Pierre Craig. Ça va toujours bien, Pierre?
Toujours bien.
La vie est belle?
Je suis très bien entouré. Moi, je suis très heureux ici.
Super. Justement, on veut vous foutre la paix. J'aimerais vous parler d'un livre de Fabrice Midal qui a écrit un livre « Foutez-vous la paix et commencez à vivre ». C'est disponible chez Udito et c'est un best-seller en France. Qui est arrivé au Québec ici, mais il écrit plusieurs livres. Il faut savoir qui est Fabrice Midal. Bon, il est né en 67. C'est un philosophe, c'est un Parisien. Il est pro du bouddhisme laïque. Il a fait de la méditation pendant 25 ans et il enseigne la méditation depuis 15 ans. Alors, il a écrit plusieurs livres, 52 poèmes d'Occident pour apprendre à s'émerveiller, Sauver votre peau, devenez narcissique, ça c'est intéressant, je l'ai lu aussi. Méditation, l'aventure incontournable, donc plusieurs livres. Et dans ce livre en particulier que je reprends, subtilement de la main de Pierre, c'est un livre qui s'adresse aux stressés, aux essoufflés, aux épuisés, aux déprimés. En fait, le fond de sa pensée, c'est « foutons-nous la paix et commençons à vivre ». Selon lui, nous souffrons car nous voulons être parfaits. Plus on est crispé, plus on focalise sur l'obligation et plus on risque d'avoir la gorge nouée, les mains moites. Il propose donc de respirer, de se synchroniser avec la vie en la regardant calmement. En somme, Fabrice Midal est un pro du stoïcisme. Il y a 15 chapitres dans ce livre-là. Il y a plusieurs chapitres, mais je veux juste vous dire, par exemple, cesser de vouloir être parfait, accepter les intempéries. Cesser d'être sage, soyez enthousiaste. Cesser d'être calme, soyez en paix. Et avec Dr. Baruel, on a lu le premier chapitre et on voulait parler entre nous de cesser de méditer et ne faites rien. Vous avez lu aussi ce chapitre et tout le livre aussi, François.
Oui.
Est-ce que lui, c'est un peu la pensée magique avec ces recettes de méditation? En fait, lui dit qu'il faut regarder méditer comme un peu le stoïcisme à l'époque, voir le nuage et le voir se dissiper et être présent à soi-même et surtout ne pas faire de la pleine conscience. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous me ramenez? Vous avez le droit de tout. Hein?
Oui, en fait, ce qu'il raconte, c'est très amusant parce que ce qu'il raconte, c'est que quand on fait de la méditation, quand on parle de la méditation, c'est quelque chose de très académique. Il faut avoir appris à le faire, il faut peut-être même faire un peu de yoga à côté, il faut être assez dans l'ésotérisme, peut-être le bouddhisme. Lui dit, en fait, arrêtez de faire ça, parce que quand vous apprenez à faire de la méditation académique, vous vous soumettez encore à un diktat de la société qui fait que vous n'êtes plus vous-même quand vous faites de la méditation, mais vous êtes encore un produit de la société, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais être vous-même réellement dans ces conditions. Donc, arrêtez, foutez-vous la paix. Arrêtez de vouloir être académique et parfait. Apprenez à méditer par vous-même. Et là, il cite un truc qui est très amusant. C'est ses grands-parents assis devant le feu.
Ah oui, c'est vrai.
Qui ne disent rien. Ils écoutent simplement le feu crépiter sans rien dire.
Le silence.
Silence. Et là, ils sont eux-mêmes. Ils sont eux-mêmes et ils entendent ce qui se passe. Ils voient ce qui se passe. Ils peuvent sentir ce qui se passe et entendre même l'autre respirer. S'entendre respirer. Et là, ils sont de nouveau humains. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes.
Mais justement, lui n'était pas très bon à l'école. Et il disait que les gens sont anxieux ou parce qu'ils se sentent obligés. Le mot « obligé » revient de manière ad nauseam dans tous les chapitres. Donc, lorsqu'on est obligé de faire quelque chose, ça ne marche pas? Par contre, c'est un paradoxe parce qu'on doit se lever le matin, prendre notre douche puis travailler.
Oui, mais enfin, on le fait moins bien que si on n'est pas obligé et si on le fait par bonheur et par plaisir. C'est exactement le cas de la méditation. On la fera beaucoup mieux si on la fait soi-même comme on l'aime, c'est-à-dire simplement s'asseyant. C'est ce qu'il explique. C'est un acte presque révolutionnaire de faire ça. C'est-à-dire de se dire, attendez, j'en ai rien à foutre et foutez-moi la paix, je me fous la paix, je fais ce que je veux, j'en ai rien à faire du reste. C'est un peu le début de ça, hein. Et là, il explique qu'on ne peut bien le faire que quand on ne fait rien, c'est-à-dire quand on se sent humain. Et ça, c'est ressentir qu'on est humain et qu'on est unique, c'est le début d'une forme de bonheur.
Mais François, on ne fait pas ça le soir qu'on arrive du travail, qu'on s'ouvre une bière puis qu'on prend la télécommande?
Ben, quand on prend la télécommande, justement.
Je sais pas, on est humain, je me prends une bière, j'ouvre la télé ou la télécommande, non, je suis avec moi-même, non?
Non, ça, on abandonne les stress qu'on a vécu dans la journée, on essaye de faire et de couper, on essaye de s'anesthésier. C'est autre chose. On ne fait pas de la méditation, on ne se retrouve pas soi-même. On a fait vraiment, c'est une anesthésie par l'alcool, par une bière, ou bien par la télé.
Bah oui,
qui vous
abrutit. Enfin,
on parlait du feu.
Sauf la facture, c'était pas anesthésie.
Oui, mais quand regarder le feu, on peut regarder le feu longtemps. Je l'ai regardé en fin de semaine, je fais des feux à la maison je regarde le feu longtemps. Mais à qui ce n'est pas arrivé de regarder un paysage, pas nécessairement le plus beau du monde, et de ressentir comme une sorte d'état de grâce?
Exactement.
De se sentir plein de quelque chose, de je ne sais pas quoi. Moi, je suis un incroyant, et dans ce temps-là, je parle à Dieu. Fouillez-moi.
Dieu?
Oui. Je remercie l'univers pour me permettre d'être présent à ce moment-là, à ce moment de grâce-là. Je peux dire Dieu, parce que c'est commode de nommer quelqu'un, là, mais je me sens rempli d'une allégresse, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est ça une forme de méditation.
Mais c'est la gratitude, alors.
Mais la télévision, non. La télévision, c'est vrai, Dr. Baruel, on s'anesthésie avec la télévision.
Ça dépend si vous êtes à l'écran ou pas. Mais je sais c'est la gratitude.
Ça dépend si c'est passif ou si c'est actif.
Okay. Ah ouais.
C'est ça le truc. Allumer la télé quand on arrive le soir chez soi et ouvrir une bière, c'est typiquement passif. C'est ça que je voulais dire. Il est évident que les émissions de Pierre Craig ne sont pas du tout dans ce genre-là. Et si on les écoute et que si on est actif, ben là, c'est autre chose.
Oui, mais donc, Pierre, vous parliez donc de gratitude. C'est la gratitude. Donc, vous êtes en état de grâce et vous dites merci.
Oui.
Mais c'est
à l'univers qui... ou à...
Ça, c'est thérapeutique.
Oui. Oh, ça fait tellement de bien.
En tout cas, Fabrice Midal, foutez-vous la
mais
paix.
Mais j'aime bien l'idée de foutez-vous la paix.
Foutez-vous la paix.
Et foutez-nous la paix aussi, avec toutes les règles et avec tous les régimes et avec les trucs enseignés. Puis faites ceci, faites cela, vous allez être mieux. Tu sais...
Un livre extrêmement libérateur et déculpabilisant. Et il y a un tome 2 qui arrive très bientôt. Je vais vous en parler dans les semaines qui arrivent.
Cessez de vous réfréner, désirez.
C'est très fort.
Est-ce que c'est pour moi que vous dites ça?
Alors l'émission prend une tournure tout à fait inusitée.
Donc voilà, la boucle est bouclée, le chat est sorti du sac.
Avec un beau rire. Continuons.
S'il fallait qu'un de ces quatre, mon âme se disperse. Bien avant qu'elle ne s'écarte du corps qui la berce, qu'un de ces quatre, qu'un de ces jours, la folie. S'efface de ma mémoire, que si facilement ma cervelle se répète du matin au soir. S'il fallait qu'un jour se jure de ma folie. En somme, si mon âme oublie ton âme et que mes yeux oublient tes yeux, ce sera le fruit de la démence et non la violence d'un aveu. Alors avant qu'un de ces jours la folie.
La santé, c'est bien beau, mais il faut penser une petite affaire aussi aux droits en santé. Pendant longtemps, Pierre Craig nous a parlé des droits des consommateurs, des consommatrices. C'est super important, mais on est aussi, qu'on le veuille ou non, tous les jours consommateurs de services de santé, services sociaux même. Et donc, j'ai envie de vous partager deux sites extrêmement importants si on souhaite s'informer. Hein, je pense qu'une information juste est assez essentielle. Qu'est-ce que vous en pensez,
oui,
Pierre?
Oui, totalement.
N'est-ce pas? Est-ce que vous avez eu recours quand même dans votre vie à de l'information juridique? Vous avez eu besoin d'en savoir plus sur vos droits en matière de santé?
Non. Pas sur mes droits en matière de santé. Ben, on fouille, non, on fouille pour savoir ce qu'on a, on fouille sur l'Internet, mais mes droits en matière de santé, ben, écoutez-vous, quand j'ai fait ma crise cardiaque, quand vous faites un truc comme ça, vous prenez à l'hôpital, vous faites un vol plané, non. On s'occupe très bien de vous. Alors, non, sur mes droits en matière de santé, non.
Ben, écoutez, que ce soit pour les gens autour de vous ou peut-être vous-même un jour, sachez que vous avez des droits et il existe deux portails extrêmement fiables qui vous permettent d'en savoir plus. Je vous invite à les visiter. Donc, on parle bien sûr d'Éducaloi, qui est un site généraliste hein, sur tous les aspects de des droits, de la loi, mais qui a une portion, qui a des portions fort intéressantes sur la santé. Et on le retrouve d'ailleurs sur educaloi.qc.ca. Mais il y a aussi un site qui est dédié entièrement au droit à la santé, qui a été proposé par Ménard Martin, avocat, vous savez, l'avocat des malades, dit-on, l'avocat de la santé, qui a proposé un site gratuit, hein, soit dit en passant. C'est peut-être une tribune pour ce service, mais il reste que c'est un service complètement gratuit. D'ailleurs, dès le départ du site, on le dit qu'on ne doit rien commercialiser là-dessus. Il y a même un engagement qu'on prend comme usager quand on entre sur ce site-là, et c'est mis à jour précieusement. Donc, si vous cherchez, par exemple, à connaître vos droits comme usager, c'est quoi ça, ces moments-là, quand on cherche à connaître nos droits comme usager? C'est parce que vous utilisez les services de santé, soit à l'hôpital, soit vous souhaitez avoir accès à votre dossier, soit encore vous sentez que vous avez été lésé dans un service qu'on vous a refusé, soit vous payez, hein, parce que normalement, notre système est public, universel et gratuit, mais on vous demande dans une clinique de payer, etc. Tout ça figure au chapitre des droits et en visitant vos droits en santé, vous pouvez savoir si on a le droit de vous faire payer ou pas. Vous avez sûrement entendu parler des frais accessoires,
mais
par
oui,
exemple.
On en reparle parce que semble-t-il qu'il y a certains frais accessoires qui ont tendance à revenir par la porte de derrière.
Mm-hmm, exactement, parce qu'en fait, il y a certains frais accessoires, on peut les retrouver d'ailleurs, et les indiquent et réfèrent au bon, qui ont, disons, un jamais été vraiment identifié comme un frais médical. Hein? C'est juste à côté, donc on joue sur les mots. Par exemple, avoir un formulaire ou autre, dans certains cas, ça peut justifier un coût. Les frais de photocopie, des choses comme ça. Mais il y a aussi, tout juste à côté, des services qu'on a commencé à tarifer parce que ça allait plus vite. Hein? Vous avez entendu parler, par exemple, de ces injections de cortisone quand vous avez de la douleur. C'est normalement couvert, mais si vous voulez aller plus vite, alors ça peut être sujet à ce qu'on accepte. Sauf que vous pouvez quand même porter plainte dans certains cas quand vous en avez besoin, que la douleur vous tenaille. Et ce site-là peut vous informer quels sont vos droits spécifiquement à cet égard. De manière générale, c'est le fun parce que vous pouvez comprendre comment la machine fonctionne, je vous assure. Je suis en train de vous vendre un site, là, ou des sites, mais...
Très bien, d'ailleurs.
Ben oui! Non, mais il faut quand même...
On est subjugués.
Oh, là, je suis content que vous m'écoutiez. Mais donc, on oublie qu'il y a une grande loi là, qui chapeaute tous nos services, et puis même si on essaie de faire des trous en dessous avec toutes sortes de politiques, il faut se référer à cette loi-là sur la santé et les services sociaux, et elle est bien présentée dans ce site web. J'ai envie peut-être de vous lire comment on introduit, parce que le droit, c'est plus que quelque chose qui flotte dans les airs, là. C'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours qu'on a. Hein? Parfois, et j'entendais plutôt Pierre Craig qui disait que peut-être qu'il n'aurait pas dû, je sais qu'il y a un contexte, là, mais il n'aurait pas dû demander à passer par un autre endroit puisque une situation pouvait devenir anxiogène. On n'ose pas souvent faire reconnaître nos droits, les revendiquer, tout ça. Alors, j'ai envie de vous lire l'introduction de ce site, et ça va être éclairant à cet égard. Le malade ou la maladie, peu importe sa nature et son ampleur, rend vulnérable la personne qui en souffre. Celle-ci devra solliciter des soins et des services de professionnels et d'organismes avec lesquels elle est peu familière. Hein? On peut même ajouter, des fois, c'est un vrai labyrinthe. Le système de santé apparaît souvent intimidant, complexe, froid, dépersonnalisé. C'est dans ce contexte que les droits des usagers prennent toute leur importance. Il y a en jeu le bien le plus précieux qu'une personne puisse posséder, sa santé. On entend là avec les premières lignes que la santé, ce n'est pas exactement un droit comme les autres. On ajoute, nous vivons dans une société développée qui a fait des choix fondamentaux.
Parmi ceux-ci, celui de se donner un système de santé pour répondre aux besoins de tous ses citoyens, quel que soit leur âge, leurs conditions économiques, leurs besoins. La prise en charge du système de santé par l'État s'est faite à travers un encadrement juridique impressionnant, peu connu, même des initiés et encore moins de ceux pour qui le système existe, les usagers. Donc, avant même d'aller chercher sur vos droits, il faut que vous ayez l'intime, la profonde conviction que vous en avez. Merci au cabinet Ménard Martin Avocat d'avoir créé vos droits en santé. Vous pouvez les retrouver facilement. Et je vous rappelle aussi, tout juste à côté, educaloi.qc.ca est excellent, fait une super bonne job. Vient avec une armée de vulgarisateurs aussi qui peuvent se présenter dans toutes sortes de situations. Vous pouvez même les convier. On le fera certainement éventuellement à l'émission. Puis des fois, c'est juste à côté. Il y a le droit à la santé, mais tu sais, y a-tu consenti aux soins?
Mais vous savez, Benoît, droit à la santé, c'est bien, mais le faire appliquer, c'est ça qui est important. Mm-hmm. Alors, vous en parlerez à Jean-Pierre. Je connais très bien Jean-Pierre. Je l'ai interviewé plusieurs fois. Puis je suis certain que c'est un excellent site. Il m'avait parlé du fait qu'il allait monter ce site-là. Et je n'ai aucun doute sur ses convictions personnelles là, quant à la défense des droits des gens. Mais le problème, c'est toujours d'avoir accès à la justice pour faire appliquer ses droits. Mais quand oui. tu es à l'hôpital, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de tribunal, tu ne peux rien faire. Oui. Tu sais, tu es comme pris là-dedans. Là. C'est après que tu peux faire quelque chose, si tu as assez d'argent pour faire quelque chose. Mm-hmm. Mais vous me réinviterez. On fera une émission complète de 2 heures sur l'accès à la justice.
Ah oui.
Je vais vous en parler.
Je sais. Et c'est pour ça qu'on vous en parle en plus. Non, mais c'est pour ça qu'on vous en parle parce que vous êtes associé avec Jury Pop qui favorise l'accessibilité aux droits. Il existe juriste à domicile de manière avec ce site puis avec d'autres manières, Ménard tente de vulgariser les droits. Puis je vous rappelle aussi qu'il y a des comités d'usagers qui existent. Il y a des organismes qui sont là pour vous soutenir. En tout cas, on pourrait faire certainement une émission là-dessus, mais c'est pas accès libre. Donc, merci. Pierre Craig de nous avoir inspiré ça parce que vous le défendez et vous pouvez aller visiter les sites, on les mettra certainement au bas de la page de l'émission.
Fantômes.
laissant derrière quelques traces pour l'âme céleste qui se perd.
Catherine Bourderon, microphone. Nous sommes en compagnie de Pierre Craig. Donc, en conclusion, j'aimerais vous poser une dernière question. Est-ce que d'avoir parlé de votre anxiété ici avec nous, c'est une forme de thérapie?
Non. Je l'ai déjà pensé. Au moment où j'ai rendu ça public, je me suis dit, je vais le dire à tout le monde, donc ça va être réglé, mais ça n'a pas été réglé, je vous l'ai dit. C'était une vieille compagne, l'anxiété, ou un vieux compagnon. Que je vais garder, enfin, qui va rester avec moi toute ma vie durant. Je pense que Dr. Baruel disait c'est l'enfant paniqué en toi. Puis je pense qu'il faut que je lui donne la main. Je pense que je dois accepter sa présence. Il ne me fait pas que du mal, il me fait du bien aussi. Mais c'est moi. Alors, je suis ce que je suis et ça fait partie de moi.
Et il y a une question aussi qu'on aimerait poser au Dr. Baruel. Pierre Craig a une question pour vous. Dr. Baruel, quels sont les côtés positifs et négatifs du stress?
Les côtés positifs du stress, c'est qu'en fait, ça nous permet de nous adapter à la vie générale, la vie en général, la vie sociale. Ça nous permet de nous élever même, c'est-à-dire de nous fabriquer. Finalement, on rebat les cartes qu'on a reçues quand on était petit. Avec notre rapport au stress, on peut choisir son stress. On peut éviter d'autres stress, ça, il faut l'apprendre, mais il faut choisir le niveau de stress qui va nous permettre de nous construire et d'avoir une victoire à chaque fois. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Ça, c'est le bon stress. Et le mauvais stress, c'est quand on n'arrive plus à gérer, quand il est constant, permanent. Et là, on est dans un état dépressif presque, hein, parfois. On n'arrive pas à la dépression, mais l'état dépressif. Et puis, c'est limite burn-out. C'est-à-dire qu'en fait, on n'en peut plus et on envoie tout en l'air. Et on n'arrive pas à se foutre la paix.
Il faut faire comme Pierre Craig a appris, c'est-à-dire apprivoiser tout ça. Écoutez, cette émission-là a été formidable grâce à l'inspiration de Pierre Craig. Il faut bien sûr remercier les gens qui sont ici, mais avant tout, je veux juste indiquer aux gens qui souhaiteraient poser des questions à quelqu'un de l'équipe, et particulièrement au Dr. Baruel, vous pouvez le faire par courriel à canalem@commercialvuesetvoix.com.
Alors, je tiens à remercier nos chroniqueurs, les chroniqueuses qui sont passées à l'émission. Claudine Larivière, nutritionniste et spécialiste en productivité humaine. Emmanuel Ouédacor, éducateur physique et entraîneur personnel. Très, très bel homme, entre parenthèses. Docteur François Baruel, médecin de famille et stomatologue. Il a toujours sa pagette, vous pouvez lui écrire.
Oui. Mais au plus, il y a une équipe, elle est formidable. Cette émission n'aurait pas été possible sans Jean-Sébastien à la liberté, à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications et aussi Catherine Bourderon qui non seulement a assumé la recherche aujourd'hui, mais a été à l'animation. Merci.
Qu'on se le dise, s'informer, c'est aussi se faire du bien et faire du bien, c'est autour de soi. Ici Catherine Bourderon
et Benoît Racette, c'est bon pour la santé!